Vous écoutez On lit pour vous.
Les retraités à la rescousse. Un texte de Juliette Fournier paru le 9 juillet 2026 dans La Presse. Durant sa carrière de caméraman pour Radio-Canada, Pierre Mainville a voyagé aux quatre coins du monde. De Moscou à Mexico, en passant par Londres, il a travaillé dans plusieurs zones de guerre et tourné une tonne de reportages. Maintenant à la retraite, il a décidé d'entamer une toute nouvelle aventure, devenir sauveteur à Saint-Lambert. Mon amour pour l'eau est total. J'aime la boire, j'aime prendre des douches, j'aime nager, dit à la blague Pierre Mainville, assis à l'ombre près de la piscine de la voie maritime sur la rive sud. Sa passion pour l'eau, c'est ce qui l'a poussé à devenir sauveteur à l'âge de 65 ans, un emploi qu'il a toujours rêvé d'occuper, plus jeune. Le retraité, qui est aussi instructeur en apnée, se charge des quarts à pourvoir aux piscines de Saint-Lambert depuis le mois d'avril 2026. De plus en plus de personnes âgées optent pour cette reconversion. À ce jour, plus de 400 surveillants sauveteurs certifiés au Québec ont plus de 50 ans. Les formations gratuites, un facteur motivant. Pour réaliser son rêve de maître nageur, Pierre a dû suivre ses formations de croix de bronze, de premiers soins et de sauveteur national durant la dernière année. Celle-ci était gratuite, puisque le gouvernement a subventionné les cours de sauvetage entre 2021 et 2025. Cette mesure s'est avérée être un grand incitatif pour les retraités qui envisagent le métier de sauveteur, selon Reynald Hawkins, directeur général de la division du Québec de la Société de sauvetage. Le nombre de sauveteurs qualifiés âgés de plus de 60 ans a plus que quadruplé durant la période de gratuité, selon les données de la Société de sauvetage. Au dernier budget, le gouvernement caquiste a décidé de mettre fin à ce programme pour des raisons budgétaires. La gratuité des formations a grandement atténué le manque de sauveteurs au Québec. Entre 2021 et 2025, leur nombre a bondi de plus de 35 %. Mais M. Hawkins redoute que les effets positifs de cette mesure ralentissent dans les prochaines années. On ne souhaite pas attendre la prochaine pénurie pour arriver avec des programmes de cette nature-là, soutient-il. De la main-d'œuvre appréciée. Les gens comme Pierre Mainville sont prisés dans les municipalités pour compléter leurs équipes de sauveteurs. Outre la touche d'expérience et de maturité qu'ils apportent, ils s'avèrent aussi bien utiles pour occuper les quarts de semaine, difficiles à pourvoir durant l'année scolaire. C'est précisément pour cette raison qu'Éric Carrier, régisseur aquatique et nautique au service des loisirs de Saint-Hyacinthe, a mis en place en janvier 2025 une cohorte de futurs sauveteurs adultes. Des formations réservées aux adultes, avec un horaire adapté et un professeur retraité qui comprend leurs besoins, ont été organisées afin d'enlever toutes les barrières possibles. La Ville s'est aussi assurée que leur intégration à l'équipe se ferait en toute harmonie, notamment en créant un salon où les employés peuvent passer du temps avant et après leur quart de travail. Dans le salon des sauveteurs, tous se côtoient, autant les adultes que les adolescents. C'est une belle richesse qui sort d'ici, témoigne Éric Carrier. Pour Pierre Mainville, travailler avec des jeunes n'est pas un ennui, même si cela prend parfois un certain temps d'adaptation. Au début de ses cours de croix de bronze, il se retrouvait seul lorsque venait le moment de former des équipes. À la fin, les jeunes se précipitaient pour l'inclure dans leurs équipes. « Je n'ai pas senti un écart de génération, » dit-il. « Moi, ça me nourrit de voir ces jeunes-là prendre ça au sérieux. Je me suis senti inclus dans la gang tout de suite. » Selon lui, certaines personnes plus âgées hésitent à prendre cette voie car elles ont peur de la responsabilité civile que cela implique. Mais pour Pierre Mainville, il s'agit d'un des plus beaux aspects du travail. Tout ce qui est sécurité me touche beaucoup. J'aime ça parce que ça fait de moi un meilleur citoyen. Depuis qu'il a commencé à surveiller au bord des piscines, sa perception du travail a beaucoup changé. Ce n'est pas « attendre 8 heures au soleil payé », assure-t-il. Non seulement la surveillance de la piscine demande une attention constante et structurée, mais il doit aussi participer à des entraînements toutes les 2 semaines, combinant épreuves physiques et simulations de cas graves. Pierre Mainville voit grand pour le reste de sa retraite. En plus de continuer à faire de la vidéo et de l'apnée, il aimerait rester à la piscine et possiblement devenir chef d'équipe. Tant que la santé tiendra, il continuera à garder ses journées occupées. « Je ne veux pas être sur mon balcon à Saint-Lambert. Je veux juste que ça roule, physiquement et mentalement. » C'était « Les retraités à la rescousse », un texte de Juliette Fournier, paru le 9 juillet 2026 dans La Presse.
Ce qui nous a fait du bien cette semaine. Un texte collectif paru le 14 août 2026 dans La Presse. Parler de fertilité en direct par Nathalie Collard. Elle a du cran dans sa vie politique, mais voilà qu'Alexandria Ocasio-Cortez nous montre qu'elle en a aussi dans sa vie privée. La représentante démocrate a décidé de documenter son processus de congélation d'ovules en se présentant en direct sur Instagram en train de se faire une injection dans le ventre. Son geste s'inscrit dans un contexte où la natalité est en baisse aux États-Unis, ce qui alimente un discours pro-famille au sein de la droite américaine qui encourage les jeunes à faire des enfants. Le privé est politique et on comprend bien que le geste de Mme Ocasio-Cortez est aussi une prise de position en faveur du droit des femmes à exercer leur pouvoir face à leurs options et à leurs choix reproductifs. Un rappel éloquent. Valoriser les livres d'ici par Alexandre Sirois. Je me trompe ou on a encore plus parlé de livres québécois et de lectures qu'à l'habitude cette année, avant et pendant la journée, le 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous raconte 2 anecdotes. La veille, je participais avec plusieurs amis à un club de lecture et tout le monde se promettait d'aller acheter des livres d'auteurs d'ici. Le jour même, au travail, ma voisine d'en face a profité de l'heure du lunch pour prendre une pause à la librairie du quartier. Elle a dit y avoir rencontré une demi-douzaine de collègues qui allaient aussi y faire des achats. Comme me le disait la professeure Marie D. Martel de l'Université de Montréal, on assiste à un bel exemple de mobilisation collective autour de la lecture et du livre. Quel bonheur! Le reste, c'est de la politique, par Nathalie Collard. L'excellent balado « The Rest is Politics », animé par l'ex-directeur des communications de la Maison-Blanche durant le premier mandat de Trump, Anthony Scaramucci, et la correspondante de la BBC aux États-Unis, Cathy Kay, part en tournée. Les 2 animateurs vont profiter des élections de mi-mandat pour visiter 6 villes américaines. Ils feront aussi un crochet par Toronto le 4 octobre. Le concept est simple. Débat devant public sur l'actualité du moment, entrevue et discussion avec le public. Avec ces 2-là, informés, esprit vif et sens de la répartie, ça ne devrait pas être plate. « Ils adorent Montréal » par Alexandre Sirois. Montréal est en voie de fracasser un record cette année quant au nombre de touristes accueillis. la ville connaît un début de saison touristique exceptionnel marqué par une croissance de l'ensemble des principaux indicateurs, vient d'annoncer Tourisme Montréal. Jusqu'au tourisme d'affaires qui a bondi de façon spectaculaire. On a accueilli en juillet 2026 près de 35 000 délégués à des congrès dans la métropole, alors qu'il y en avait eu 19 300 au cours de la même période en 2025. Critiquer Montréal est presque en train de devenir, ici, un sport national. L'amour des touristes pour Montréal est un rappel utile. Malgré ses défauts, notre métropole est une ville formidable. C'était « Ce qui nous a fait du bien cette semaine », un texte collectif paru le 14 août 2026 dans la presse.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août. En 1963, discours « I have a dream » de Martin Luther King. Devant plus de 200 000 personnes rassemblées à Washington lors de la Marche pour l'emploi et la liberté, Martin Luther King prononce son célèbre discours « I have a dream » devant le Mémorial Lincoln. Il y appelle à la fin de la discrimination raciale et à l'égalité des droits pour tous les citoyens américains. Ce discours est aujourd'hui considéré comme l'un des plus marquants de l'histoire du 20e siècle. Il contribuera à accélérer l'adoption des lois sur les droits civiques aux États-Unis. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août.
Le chant des oiseaux, perdu dans le tumulte de la ville. Un texte de Caroline Monpetit paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Une étude indique que 14 espèces d'oiseaux supplémentaires augmentent le bien-être humain autant qu'une hausse de salaire de 210 $ canadiens par mois. Les chants d'oiseaux sont essentiels pour leur survie, mais le bruit humain les oblige à chanter plus fort, ce qui les épuise. Certains oiseaux, comme le moqueur polyglotte, profitent du paysage sonore ambiant pour imiter le plus de sons possible pour séduire leurs partenaires. Ils sont petits, mais ils sont là. On les entend plus qu'on ne les voit, et leur pépiment a plus d'effet sur les humains qu'on le soupçonne. Une étude parue il y a quelques années dans la revue Ecological Economics a établi qu'être entouré de 14 espèces d'oiseaux de plus apporte autant au bien-être humain qu'une hausse de salaire de 150 $ américains, soit 210 $ canadiens par mois. L'argument a de quoi faire réfléchir dans un monde où la biodiversité aviaire recule chaque année devant le développement. C'est en grande partie, il est vrai, le fait de la destruction des habitats, notamment à travers l'agriculture et à cause de l'utilisation de pesticides. Mais le bruit de l'espèce humaine, puissant, omniprésent, a lui aussi une incidence sur cette biodiversité. En ville, les oiseaux doivent chanter plus aigu et plus fort pour conquérir une femelle ou pour défendre leur territoire, indique Antoine Ouellette, compositeur et biologiste, qui a signé il y a plusieurs années un livre intitulé « Le chant des oiseaux ». Dans un contexte urbain, l'animal mettra davantage d'énergie à marquer de ses vocalises le territoire ou, au contraire, rétrécira son champ d'action pour en assurer la protection. Le chant des oiseaux est un élément indispensable à leur survie. Chez les oiseaux, la territorialité et la reproduction sont basées sur le chant plutôt que sur la vue, explique Michel Leboeuf, biologiste, qui a écrit un livre sur le sujet nommé « Les chants perdus de la nature ». Un orchestre naturel. Dans un boisé, par exemple, les différentes espèces de parulines se partagent l'espace pour être assurées d'être entendues par leurs partenaires. La paruline à croupion jaune, dont le tri est plus grave, vit au ras du sol, où son chant circule mieux. La paruline à poitrine baie niche au milieu des arbres pour les mêmes raisons, et la paruline à gorge orangée, qui chante le plus aigu, s'installe au sommet. Sur la grande partition sonore de la forêt, chaque espèce devrait trouver l'espace sonore pour se reproduire et pour défendre son territoire. Les parulines sont un bel exemple forestier où chaque espèce s'est trouvée une strate dans les hauteurs de la canopée forestière, soutient Michel Leboeuf. Mais dans le vacarme tonitruant généré par l'espace humain, certaines espèces n'arrivent plus à trouver leur compte. Et en ville, les oiseaux doivent chanter plus fort et plus aigu pour subvenir à leurs besoins primaires. Antoine Ouellette relève que les basses fréquentes omniprésentes sont les plus nocives pour les humains comme pour les oiseaux. Les basses fréquences sont souvent reliées à l'anxiété. Et j'ai vu des études selon lesquelles, pour remédier à ce « om » constant en milieu urbain, les oiseaux ont tendance à chanter plus haut et plus fort, dit-il. Cette nécessité de s'égosiller a pour effet d'épuiser les oiseaux qui auront ainsi moins d'énergie pour subvenir à leurs besoins vitaux. Les espèces qui vivent dans un bruit ambiant permanent vont dépenser beaucoup plus d'énergie à chanter sur une plus longue période pour essayer de trouver des femelles ou pour défendre leur territoire. Si l'individu n'est pas capable de se faire entendre par une partenaire sexuelle, le mâle va passer son été ou son mois de juin à chanter et il ne trouvera personne, explique Michel Leboeuf. Fait à noter, durant la pandémie de Covid-19, alors que bien des avions s'étaient tus et que le transport urbain s'était retrouvé réduit, les espèces d'oiseaux qui avaient haussé le ton pour survivre ont retrouvé leur registre d'origine, relève Antoine Ouellette. L'incidence du bruit sur le comportement des oiseaux est de plus en plus prouvée. Des études ont établi que lorsqu'il est exposé à des bruits constants reliés à l'exploitation gazière ou au trafic routier, le tétras des armoises qui vit dans l'Ouest américain produit 16,7% de plus de cortisol, l'hormone du stress. Une étude japonaise a aussi démontré que le bruit d'une autoroute à proximité diminuait de 90% les aptitudes de chasse des hiboux et des chouettes. Le bruit ambiant peut également rendre les individus plus vulnérables à l'égard des prédateurs qu'ils ne peuvent plus entendre venir. D'autres espèces, pour leur part, vont tirer profit du paysage sonore ambiant. C'est le cas du moqueur polyglotte, cet ineffable cabotin qui imite le plus de sons possible pour séduire sa partenaire. Il ne se contente pas, pour y arriver, d'imiter les chants de ses congénères, mais compte aussi dans son répertoire des imitations de sonneries de téléphone, de klaxons ou de poulies qui grincent. C'était « Le chant des oiseaux, perdu dans le tumulte de la ville », un texte de Caroline Monpetit, paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 5 septembre. En 1774, ouverture du premier congrès continental. Des représentants de 12 des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord se réunissent à Philadelphie pour former le premier congrès continental. Cette assemblée vise à coordonner une réponse commune face aux mesures jugées oppressives imposées par la couronne britannique. Elle constitue l'une des premières manifestations concrètes d'unité politique entre les colonies américaines. Ce congrès posera les bases institutionnelles qui mèneront, quelques années plus tard, à la Déclaration d'indépendance des États-Unis. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 5 septembre.
Quand un algorithme censure un Nobel. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 juillet 2026 dans La Presse. Près d'une centaine d'années après avoir reçu un prix Nobel de physique, l'Allemand Max Planck s'est retrouvé sur une liste noire de chercheurs dont les travaux ont dû être rétractés. Un historien québécois a toutefois récemment découvert que le célèbre physicien avait vraisemblablement été victime d'une erreur de l'intelligence artificielle. Yves Gingras regardait une liste de prix Nobel qui ont dû rétracter des publications scientifiques quand il a vu le nom du célèbre physicien allemand. « Impossible », s'est dit l'historien des sciences à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Il y a 15 à 20 ans, l'éditeur scientifique Springer a numérisé les vieilles publications de Die Naturwissenschaften, une revue allemande, dit M. Gingras. Mais jusque dans les années 1960, la notion de copyright et de plagiat était très différente dans les milieux scientifiques. Autant que je puisse juger, un algorithme a décidé qu'il fallait retirer deux articles de Max Planck datant des années 1940. M. Gingras a publié son analyse, réalisée avec Madi Kalfaoui de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, en juin sur le site de prépublication Archive. Le physicien allemand est l'un des fondateurs de la mécanique quantique et a reçu un prix Nobel en 1918 pour l'ensemble de ses travaux. Il est mort en 1947. On lui doit notamment la constante de Planck, qui relie l'énergie d'un photon à sa fréquence et est à la base de la conception de puces informatiques. Sciences de la nature était alors publiée en allemand. L'un des articles, publié en 1940, était une réponse à une critique d'un autre chercheur, Alois Müller, et avait utilisé le titre de la critique de Müller, « La science de la nature et le monde réel externe ». L'autre, publié en 1942 et intitulé « Sens et limites de la science exacte », a été publié dans deux autres revues et dans deux livres. Pratique aujourd'hui révolue, la reprise du titre d'un autre article et la publication du même article dans plusieurs revues ont vraisemblablement attiré l'attention de l'algorithme. Ça n'a aucun sens d'appliquer les notions modernes de plagiat et de copyright à des publications des années 1940, dit M. Gingras. C'est un peu comme si on censurait une discussion d'Aristote sur l'esclavage. On applique des catégories morales de manière anachronique. Erreur humaine. Springer a expliqué le 6 juillet 2026 à La Presse qu'il s'agit apparemment d'une erreur humaine datant de 2011, sans implication d'un algorithme, et que les deux articles seraient republiés. Ils l'ont été tôt le 7 juillet 2026. M. Gingras est sceptique. Au départ, la rétractation affichée parlait d'une violation d'article plutôt que d'une violation de copyright, dit M. Gingras. Ça n'a aucun sens en anglais. Ça ressemble à la formulation d'un algorithme. Qui peut croire qu'une personne a vérifié tous les papiers numérisés de 1913 à nos jours pour vérifier le copyright ou autre chose et rétracter seulement deux papiers de Planck. En fait, il devait y avoir un algorithme qui filtrait d'abord avec des critères et ensuite, évidemment, une personne devait dire probablement oui ou non à la rétractation. L'historien montréalais déplore aussi la réaction initiale de Springer. Ils ont répondu qu'ils discutaient des rétractations seulement avec les auteurs. Max Planck est mort en 1947. C'est vraiment de la langue de bois. Même si la numérisation des vieilles revues scientifiques rend leur contenu plus accessible, elle comporte des risques selon M. Gingras. Le génie de l'imprimerie a été de multiplier les exemplaires de livres dans toutes les bibliothèques du monde, de telle sorte que si un endroit censure, on trouve le livre ailleurs, dit M. Gingras. Le danger avec le serveur Springer est que c'est l'unique lieu, si on n'a pas accès aux versions papier, que les bibliothèques font l'erreur naïve de mettre au pilon. On menace le patrimoine scientifique. Article disparu en Chine. Un exemple de ce danger est survenu avec des revues chinoises de la première moitié du XXe siècle qui ont été numérisées par le gouvernement chinois dans la dernière décennie. Des articles qui ne faisaient pas l'affaire du Parti communiste sont disparus, dit M. Gingras. Cette histoire a été révélée en 2017 par un historien américain qui a identifié des douzaines d'articles retirés des archives de deux bibliothèques numériques chinoises. M. Kelfaoui a aussi trouvé une étude de 1922 d'un psychiatre allemand dans une revue allemande intitulée « L'effet de la cocaïne dans la paralysie stuporeuse », qui a également été rétractée par Springer, présumément parce qu'elle a été publiée ailleurs, ainsi qu'un article de 1951 qui a été rétracté parce qu'il comportait des préjugés sur l'homosexualité. C'est une décision absurde, puisque les idées véhiculées dans ce papier à propos de l'homosexualité étaient à l'époque partagées par de nombreux autres chercheurs, dit M. Kelfaoui. C'était « Quand un algorithme censure un Nobel », un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 juillet 2026 dans La Presse.